Vous écoutez
RMC. RMC. 5h-6h30. Charles Matin. Martin Bourdin.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC. On est le lundi 27 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On démarre la semaine tous ensemble, évidemment, comme tous les jours dans Charles Matin avec de l'info, du débat. Et Géraldine Debory, évidemment, qui est là pour vous servir. Salut Géraldine.
Salut Martin, bonjour à tous.
T'as passé un bon week-end ?
Bah oui, écoute, petite fête des mamans.
Bah oui, voilà, on t'a fêté ça comme il se doit.
Ouais, j'ai eu mes petits dessins, mes petites cartes, c'était très sympa.
Parfait. T'as profité un peu du beau temps aussi. On a,
bah,
on a
oui,
eu
samedi,
un
temps
plutôt agréable aujourd'hui, ce week-end.
Ouais. Oui, il fallait en profiter parce que cette semaine, ça va être encore pourri.
Voilà,
ça y est, je vous ai spoilé.
Voilà, casser l'ambiance directement. En tout cas, on aura peut-être un peu moins de regrets d'aller au boulot cette semaine. Il va faire un peu moins beau que ce week-end. Bon, en tout cas, plus profiter du beau temps que d'aller devant la télé regarder Roland Garros hier.
Ah oui, non, j'attends aujourd'hui Roland Garros.
Ouais.
Aujourd'hui, que ça va devenir très
ce soir,
sympa.
Cet après-midi, ouais. Fin d'après-midi, les débuts de Rafael Nadal, j'imagine, c'est ça qui t'intéresse.
Juste au réveil de la sieste, c'est parfait.
Exactement, Rafael Nadal qui joue tout à l'heure en milieu, fin d'après-midi a priori, ça va dépendre de ce qui se passe sur la terre battue parisienne juste avant lui, pour son peut-être dernier match à Roland-Garros, qui sait, l'Espagnol qui joue face à l'Allemand Zverev. On en parlera tout à l'heure avec Alex Biggerstaff dans la Story Sport. Il y a eu beaucoup de sport ce week-end, il y a eu également le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, l'un des Grands Prix les plus attendus de la saison, remporté en plus par un monégasque Charles Leclerc, ça a fait plaisir à tout le monde du côté de la Principauté. Mais le sport est aussi passé au second plan, c'était samedi soir, le PSG qui a remporté la Coupe de France face à Lyon, oui. Mais ce qu'on a retenu de cette soirée de foot, c'était les images, ces images que vous avez certainement vues, ces images d'une violence inouïe quelques heures avant la rencontre.
Oui, les supporters ultra des deux équipes se sont affrontés au niveau d'un péage sur l'autoroute A1 dans le Pas-de-Calais. Un bus de supporters a été incendié, bilan 38 blessés, dont 8 membres des forces de l'ordre.
Ces images, je le disais, elles ont tourné partout, en boucle, vous les avez certainement vues. Quel est votre sentiment ce matin ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On sait que ce n'est pas le premier incident entre supporters hein, cette année. On pense à ce qui s'est passé à Marseille d'un Marseille-Lyon, ce qui s'est passé à Nantes en marge d'une rencontre face à Nice. Est-ce qu'il faut interdire maintenant tous les déplacements de supporters ? Est-ce qu'il faut dissoudre les groupes ultra ? On en parle tous ensemble au 32-16 toute la matinée. L'autre actualité dont on veut parler avec vous ce matin, dont on veut débattre avec vous ce matin, c'est le coup de vis du gouvernement annoncé sur l'assurance chômage. Gabriel Attal, le Premier ministre, a dévoilé officiellement les principales mesures hier de cette réforme chômage.
Il faudra bien travailler plus pour toucher une indemnité. Minimum 8 mois de boulot sur les 20 mois précédents et la durée d'indemnisation sera bien rabotée. 15 mois au lieu de 18 dans les conditions actuelles, alors qu'on a un taux de chômage inférieur à 9%.
Il y a des jobs dispo, il faut les prendre, il faut aussi garantir le financement de l'assurance chômage. Voilà ce que dit le gouvernement, voilà les arguments de l'exécutif. Les syndicats dénoncent, eux, une réforme injuste qui va plonger les chômeurs encore davantage dans la précarité. On vous attend ce matin au 32-16 sur Direct Studio. Vous êtes demandeur d'emploi, vous avez connu le chômage. Dites-nous si le gouvernement a raison de mettre encore un peu plus la pression sur les chômeurs. Est-ce que c'est justifié ou est-ce que vous pensez comme les syndicats que cette réforme est purement comptable, purement budgétaire ? On en débat tous ensemble ce matin au 32-16 et sur l'appli RMC onglet Direct Studio. On aura également toutes les chroniques. Manu Conso avec Manu Le Chypre, la Story Sport, je vous le disais, avec Alex Biggerstaff. C'est déjà demain avec Anthony Morel. Mais d'abord, à 5h, Géraldine, on regarde la météo, on l'a dit, ça va un peu se dégrader à partir d'aujourd'hui.
Ah bah oui, c'est reparti pour une semaine qui va être encore très perturbée. Alors pour aujourd'hui, c'est surtout sur le quart sud-est qu'on va avoir beaucoup d'averses orageuses. Sur une large moitié nord, on va avoir une alternance de nuages, d'éclaircies, quelques averses ponctuellement. Et puis des températures qui baissent cet après-midi, il fera souvent 15 à 20 degrés. On ira quand même jusqu'à 25 degrés pour la Corse.
La météo sur RMC avec BNP Paribas, avec Tap to Pay sur iPhone et Accepta BNP Paribas, acceptez les paiements sans contact. Il suffit d'un iPhone.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
5h, toute l'info, c'est avec Thibaut Texard. Bonjour Thibaut.
Bonjour Martin, bonjour à tous. La fin de l'état d'urgence ce soir en Nouvelle-Calédonie après 12 jours d'application. L'exécutif souhaite réinstaurer le dialogue sur place et annonce l'envoi de 480 gendarmes mobiles supplémentaires sur l'archipel. Une attaque au couteau dans le métro lyonnais hier après-midi fait 4 blessés, dont 2 en urgence absolue interpellés. Le suspect a été placé en garde à vue. La thèse terroriste est à 7h écartée. Et puis nouveau tour de vis du gouvernement sur l'assurance chômage. Durcissement à l'ouverture des droits, abaissement de la durée d'indemnisation. Gabriel Attal a dévoilé hier les principales mesures de cette nouvelle réforme visant à économiser plus de 3,5 milliards d'euros à l'État.
La situation reste difficile ce matin en Nouvelle-Calédonie.
Après deux semaines de vives tensions qui ont coûté la vie à 7 personnes, de nombreux points de blocage subsistent sur l'archipel. Pour autant, Julien Coudreau, l'état d'urgence va être levé sur décision d'Emmanuel Macron.
Oui, l'état d'urgence sera levé ce soir à 20h, heure de Paris, 5h du matin à Nouméa, 12 jours exactement après son instauration. Au-delà, un vote du Parlement aurait été nécessaire pour le prolonger. Ce ne sera donc pas le cas. L'Élysée fait savoir que cette levée de l'état d'urgence doit permettre les réunions des différentes composantes du FLNKS, les partis indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, ainsi que les déplacements sur les barrages des élus et responsables en mesure d'appeler à leur levée. Emmanuel Macron rappelle d'ailleurs que c'est la condition nécessaire à l'ouverture de négociations concrètes et sérieuses. Discussion que doit mener la mission de médiation composée de 3 hauts fonctionnaires nommés par le chef de l'État lors de sa visite express dans l'archipel jeudi. En parallèle, 7 unités de force mobile supplémentaires, soit 480 gendarmes mobiles, seront envoyés en renfort sur place dans les prochaines heures.
Et les précisions ce matin de Julien Coudreau pour RMC. 4 blessés, dont 2 en urgence absolue. Bilan d'une attaque au couteau hier après-midi dans le métro de Lyon. Les faits se sont déroulés au niveau de la place Jean Jaurès, située dans le 7e arrondissement de la ville. Les précisions de Lucas Lobert.
Oui, il est 14h30 quand la police est appelée par un témoin. Dans le métro, un homme attaque plusieurs personnes avec un couteau. 4 sont blessés. Selon les informations de BFM TV, après l'agression, l'auteur prend la fuite, remonte à la surface. Seulement 5 minutes après le signalement, une équipe de la BAC l'interpelle sans difficulté dans la rue. Aucun élément ne permettrait de faire le lien avec une motivation terroriste. L'homme, un Marocain de 27 ans, était visé par une obligation de quitter le territoire français avec un profil psychiatrique chargé, selon Fabienne Bussiot, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a fait plusieurs passages dans plusieurs établissements psychiatriques et il n'était absolument pas connu d'aucun de nos fichiers. Il ne présente pas de profil particulier, si ce n'est un profil psychiatrique assez lourd.
L'agresseur a été placé en garde à vue. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire est ouverte.
Il dénonce des sanctions à vie. Il demande des sanctions à vie pour les voyous. Sur RMC, le président de la Fédération française de foot réagit après l'incendie d'un quart de supporters samedi sur la 1 en marge de la finale de la Coupe de France entre Paris et Lyon. Comment une telle rixe a pu éclater alors que la rencontre était classée 5 sur 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme? La préfecture évoque, Marco Bult, une erreur d'organisation lyonnaise.
Oui, les deux groupes de supporters n'auraient jamais dû se croiser. Samedi après-midi, 15 quarts d'ultra lyonnais ont rendez-vous sur une aire d'autoroute pour être escortés par la police jusqu'au stade. Autre aire d'autoroute, autre horaire de rendez-vous pour les supporters du PSG. Sauf que, problème, côté lyonnais, la moitié des bus ne respectent pas le point de rendez-vous. Ils vont sur l'aire d'autoroute des Parisiens. Et puis, l'un des bus lyonnais est en retard. Alors, au lieu de rejoindre les autres pour attendre l'escorte, il va directement au péage, non accompagné. C'est là qu'il se retrouve au milieu des bus parisiens et qu'il finira par être incendié. Un convoi arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment, résume le préfet du Nord.
Vous avez vu ces images, forcément, ce week-end, ces images de bus brûlés au niveau d'une barrière de péage, ces affrontements entre supporters parisiens et lyonnais. Venez réagir ce matin au 32-16. Est-ce qu'il faut interdire les déplacements de supporters en marge des matchs de foot? Est-ce qu'il faut dissoudre les associations de supporters ultra? Vous nous appelez au 32-16, vous laissez également vos messages sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio.
Valoriser encore plus le travail, aller vers le plein emploi, objectif du gouvernement. Dans les colonnes de la Tribune dimanche, Gabriel Attal a détaillé hier les mesures de la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Elle entrera en vigueur au 1er décembre. Le Premier ministre annonce des conditions d'octroi plus strictes dès l'ouverture des droits, ainsi qu'une durée d'indemnisation réduite à 15 mois. Autre nouveauté, la création d'un bonus emploi senior visant à relancer l'embauche des plus de 57 ans en leur garantissant un salaire équivalent au poste précédemment occupé. Une mesure aux effets pervers puisque le dispositif ne serait valable, Léonie Guilbeault, que pour la première année.
Serge a 57 ans, il est au chômage depuis plusieurs mois, ancien cadre dans une multinationale, bardé de diplômes, il cherche un emploi à la hauteur de ses compétences, mais les fins de mois difficiles et ce bonus emploi senior lui font tout envisager.
Avec un compte en banque qui frôle le zéro, il faut forcément trouver du boulot d'une manière ou d'une autre, à la limite n'importe lequel. Je prends un truc moins bien payé, j'ai en train de me demander si ok, je veux bien faire vendeur pendant un an avec mon ancien salaire.
Mais Serge envisage ce bonus uniquement comme une solution d'urgence car il y voit un vrai manque de considération de la part part du gouvernement.
C'est prendre des seniors et des expériences à faible coût en leur disant mais c'est pas grave, vous récupérerez de toute façon votre salaire d'avant. L'idée même est c'est d'une violence monstrueuse, c'est grosso modo vous valez rien.
Un bonus qui n'en est pas un pour Claude Varet, président de la FIDES, une fédération qui agit pour le développement de l'emploi des seniors. À long terme, il redoute une précarisation de ses travailleurs.
C'est l'armée du salut. Moi, je suis extrêmement choqué. Au lieu d'avoir une véritable gestion de l'emploi, en fait, c'est la gestion de la précarité. Donc, c'est nier, en fait, la valeur des seniors.
Ce bonus emploi senior devrait entrer en vigueur par décret le 1er décembre.
Cette réforme de l'assurance chômage, on en débat tous ensemble ce matin au 32-16. On veut vos avis. Est-ce qu'elle est justifiée, cette réforme de l'assurance chômage, ce tour de vis sur les chômeurs? Est-ce que le gouvernement a raison de mettre de la pression sur les chômeurs? Venez nous le dire ce matin, si vous êtes chômeur, comment vous vivez ces annonces? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Est-ce que ça vous inquiète également si vous avez déjà connu le chômage? Venez nous dire un peu ce que vous en pensez, puis on vous attend également, on en a parlé, hein, vous avez entendu les réactions dans le sujet qu'on vient de diffuser de Léonie Guilbault à l'instant. Si vous êtes patron, est-ce que vous seriez prêt à embaucher plus de seniors grâce à ce bonus emploi des plus de 57 ans? Bonne ou mauvaise idée? On vous attend toute la matinée au 32-16 sur l'appli RMC Direct Studio, on attend tous vos avis et tous vos témoignages à ce sujet.
La présidence palestinienne dénonce un atroce massacre, au moins 30 personnes ont été tuées selon le Hamas dans un centre pour déplacés proche de Rafah dimanche. Dizaines de personnes sont également blessées à l'origine des frappes. Israël, qui se dit informé des dégâts infligés aux civils par ces tirs. Hugo Humbert, à la trappe, le numéro 1 français tombe au premier tour de Roland-Garros. Ça passe pour 5 autres tricolores à suivre aujourd'hui. Entre autres, Gaël, Monfils, Océane Dodin, sans oublier un choc très attendu. Alexander Zverev, opposé à Rafael Nadal. Étape loin d'être gagnée pour l'Espagnol aux 14 sacles sur la terre battue parisienne. Léna Marjac.
C'est une affiche qui fait saliver. Pour les détenteurs d'un billet en journée sur le cours Philippe Chatrier, c'est le Graal.
Gros coup de chance, on ne sait jamais sur quoi on tombe quand on a les billets. Et là, franchement, c'est le top.
Très, très chanceuse de voir ce match-là.
C'est deux grands joueurs qui s'affrontent. C'est un match qu'on ne voit pas plusieurs fois dans sa vie.
Même les joueurs sont impatients. Carlos Alcaraz, le numéro 3 mondial, ne veut pas louper la rencontre.
Je vais regarder ce match. C'est sûr que si je peux, je le ferai.
En conférence de presse, c'est un Rafa souriant, décontracté qui s'est présenté et surtout rassurant sur son niveau de jeu.
Je me sens compétitif. Je peux vous dire qu'à l'entraînement, je peux jouer contre n'importe qui quasiment. Je ne me sens pas pire que les autres. Cela donne espoir.
Rafael Nadal est dans son royaume à Paris et ce n'est pas le même joueur quand il entre sur le court Porte d'Auteuil. Alejandro Sirisa est journaliste pour le quotidien espagnol El País.
S'il est ici, c'est parce qu'il a l'espoir de jouer à un niveau acceptable. Il n'est pas venu ici simplement pour dire au revoir, mais plutôt pour jouer et aller loin.
Dernier Roland ou non, Rafael Nadal n'a pas souhaité le confirmer. En tout cas, aucun hommage n'est prévu en cas de défaite.
Et puis Tadej Pogacar a remporté le Giro. Première, c'est une première pour le Slovène en forme avant le Tour de France. À suivre, bien évidemment, sur RMC.
Évidemment.
Et puis une question, Martin, Géraldine, avez-vous déjà rêvé de vivre sur une autre planète?
Pourquoi pas?
Alors,
à deux, trois détails près, ça pourrait être possible puisque les scientifiques ont découvert une exoplanète similaire à la Terre, bien que plus petite, théoriquement habitable pour l'homme. Gliese 12b, c'est son nom. Elle est en orbite autour de sa propre étoile, comme nous, avec le Soleil. Sa température est estimée, bon, Géraldine, 42 degrés.
C'est un peu chaud.
C'est un peu chaud, mais bon,
si ça passe. Sur la Terre dans quelques années,
reste à savoir désormais s'il y a de l'eau sur cette planète et si elle dispose d'une atmosphère. Autre petit détail qui n'est pas des moindres, elle se situe à 40 années-lumière de la Terre, hors de notre système solaire. Il faudrait un long voyage de 225 000 année pour l'atteindre.
Oui, bon, ouais, ça va être un peu compliqué. Non, a priori, ça va être un petit peu compliqué.
Ouais, ça va être compliqué.
On s'y prend un peu tard, on va dire. Après, pourquoi pas, peut-être en trouver une autre plus tard, un peu plus proche de chez nous. En tout cas, c'est prometteur. C'est découvert.
Plus proche, on l'aurait peut-être déjà trouvé quand même.
Oui, peut-être. Mais j'ai envie d'avoir de l'espoir ce matin. Donc voilà.
On est bien sur notre planète.
Exactement. On est pas mal. On est quand même pas trop mal, même s'il faut la préserver, évidemment, en écoutant les podcasts de Géraldine tous les jours. Merci beaucoup, Thibaut. On se retrouve dans une vingtaine de minutes.
À tout à l'heure.
Sur RMC pour un nouveau journal. Tiens, on va filer au 32-16. Tout de suite, Cyril nous appelle. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Chauffeur VTC, Cyril, déjà dans la voiture, déjà en train de faire des courses ce matin?
Ouais, presque fini, presque.
Presque fini, ouais, ça a duré toute la nuit, ça va, la nuit s'est bien passée?
Ouais, ça va.
Vous êtes où là? Vous êtes à quel niveau actuellement?
À côté de Charles de Gaulle.
À côté de Charles de Gaulle, en attente de passagers qui descendent de l'avion?
Non, vers Paris.
Non? Ouais, bon, d'accord, très bien. Vous avez suivi ce week-end sportif, Cyril, notamment la finale de la Coupe de France, cette victoire du PSG face à Lyon?
Oui, j'ai regardé, bien sûr. On ne rate jamais un match.
On a réussi à se focaliser sur le sportif malgré les événements avant, ce qui s'est passé sur la 1. On en parlait dans le journal avec Thibaut. Ces affrontements entre supporters parisiens et lyonnais.
Bah, c'était un match à haut risque, ouais, on le savait un petit peu tous. Après là, ça va vraiment de plus en plus loin, mais bon, c'est déjà comment un bus de Lyonnais se retrouve sur un bus, sur une aire d'autoroute où il y a que des Parisiens. Apparemment, ouais, il y avait un retard dans le bus. Enfin,
c'est ça, apparemment, c'est un bus qui a pris l'itinéraire pour organiser son retard.
On ne sait plus organiser les choses en France, surtout quand c'est des 10 campins qui se dépassent pour un match de foot, quoi. On a trop d'interdictions, enfin, ça devient n'importe quoi.
Vous en avez fait des déplacements de supporters, c'est
bien, oui, j'en fais même quasiment quand je peux.
Ouais,
les matchs les moins chers qu'on peut faire, quoi. C'est à peu près 10-15 euros la place, donc.
Et comment ça se passe? C'est toujours compliqué?
Non, moi, je suis supporter de Strasbourg, donc nous, ça se passe plutôt bien. Mmh. On s'entend plutôt bien avec tout le monde. Il n'y a que avec Metz, et avec Metz, c'est bien organisé, parce qu'on doit aller, on est obligé, enfin, moi, j'habite sur Paris, donc quand je dois aller voir le match à Metz, il faut aller à Strasbourg prendre un bus pour être escorté jusqu'à Metz pour entrer dans le parking visiteur. Mmh. Mais sinon, non, ça se passe plutôt bien. Là, on était à Lyon il y a une semaine, ça s'est très bien passé, on n'a pas eu de problème, quoi.
Et ça vous étonne, là, qu'on en arrive là, à des situations comme ce qui s'est passé ce week-end?
Là, ça a dépassé un autre niveau, mais là, je suis sûr que c'est même pas des supporters. Si on cherche bien dedans, ça doit être des hooligans dedans. Donc, le problème, c'est que c'est des groupes souvent qui sont politisés, donc extrême droite ou extrême gauche, et ça devient n'importe quoi. Ces gens-là, ils n'ont rien à faire dans un stade, on est d'accord.
Donc, comment on fait pour éviter que ça se
reproduise? On fait pas des sanctions collectives, déjà, on fait des sanctions individuelles. Là, les gens, c'était facile, ils étaient tous sur le parking. Il fallait les choper un par un et leur mettre une sanction, leur dire c'est fini, maintenant vous irez plus dans un stade. Mmh. Et le jour où il y a un match de votre club, vous allez pointer au poste. Et si vous n'avez pas pointé au poste, c'est le newf.
Il y a eu une dizaine d'arrestations et d'interpellations après ces événements. On va évidemment suivre ce qui se passe et les sanctions qui leur sont imposées. Mais ce que vous dites ce matin, Cyril, c'est qu'il ne faut pas de sanctions collectives, il faut des sanctions individuelles. Merci beaucoup de nous avoir appelés depuis votre voiture à côté de Charles de Gaulle, de l'aéroport Charles de Gaulle. Merci beaucoup, Cyril. Ouais, bonne journée, bon courage pour la fin de journée.
Ouais, on va essayer. Vous aussi. Bon match de Nadal pour Géraldine. Attention, c'est le dernier, hein, il faut.
Et pourquoi pas un exploit? On peut rêver.
S'il gagne, il fera taire beaucoup de journalistes.
Oui, c'est sûr, ça, c'est vrai. On suivra tout ça et puis on donnera des nouvelles évidemment demain. On débriefera cette rencontre avec Raphaël Nadal. Merci beaucoup, Cyril. Bonne journée du côté de la région parisienne. On continue le débat. Si vous avez vu ces images, vous continuez de réagir et puis on débat également ce matin. Je vous le disais, de l'assurance chômage. Est-ce que vous comprenez ce tour de vis, cette pression mise par le gouvernement aux chômeurs? On continue d'en débattre toute la matinée. Vous nous appelez au 32-16. Vos avis, vos témoignages également sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio, 5h13.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Tous les matins, vous le savez, on joue avec votre connaissance de l'actu. On vérifie si vous êtes bien réveillé. Bon, c'est pas très compliqué aujourd'hui, la question du jour. On en a parlé à l'instant avec Cyril.
Quel ancien numéro 1 mondial fait son entrée aujourd'hui à Roland-Garros?
Quelqu'un qui a gagné pas mal de fois le tournoi de Roland-Garros. La réponse, vous la connaissez forcément, elle tient en 5 lettres. Et donc, vous envoyez le mot « actu » par SMS au 732-16. « Actu » par SMS au 732-16 pour tenter de gagner un joli cadeau, Géraldine.
Ouais, un très joli radio-réveil de la marque Muse pour vous réveiller tous les matins avec RMC.
Quel ancien numéro 1 mondial fait son entrée aujourd'hui à Roland-Garros? Il joue en fin d'après-midi. Vous avez la réponse, vous envoyez le mot « actu » par SMS au 732-16. On vous souhaite bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC, police justice.
RMC Police Justice, votre rendez-vous PJ comme tous les matins avec Marion Dubreuil du service Police Justice d'RMC. Bonjour Marion.
Bonjour Géraldine, bonjour Martin.
Ce matin Marion, vous nous racontez l'histoire d'un Américain forcé à avouer le meurtre de son père par la police, c'était il y a 6 ans, il vient d'obtenir justice.
Oui, Thomas a obtenu un chèque de 900 000 dollars en réparation de la ville de Fontana en Californie pour la torture psychologique qu'il a endurée en août 2018. Tout débute quand Thomas déclare la disparition de son père à la police, dont il n'a pas de nouvelles depuis 24 heures. Il était sorti la veille balader le chien sans rentrer. Dès cet appel, la policière à l'autre bout du fil a des soupçons. Thomas lui paraît trop détaché. Elle décide de l'interpeller chez lui. Pendant que des agents fouillent la maison, Thomas, lui, et ramené au poste. Il est rapidement accusé du meurtre de son père. Les policiers lui refusent les soins qu'il demande. Pendant 17 heures d'interrogatoire, Thomas est malmené par les enquêteurs qui n'hésitent pas à mentir pour obtenir des aveux, jusqu'à prétendre avoir retrouvé le corps de son père ou même à le menacer de tuer son chien. Poussé à bout, sans avocat, Thomas finit par avouer. Laissé seul quelques minutes en salle d'audition, il tente alors de se pendre. Il est finalement hospitalisé en psychiatrie. Le soir même, sa sœur appelle la police pour assurer que son père est en vie, qu'il doit même lui rendre visite. Il avait juste oublié de prévenir son fils. Thomas, lui, restera encore 3 jours interné sans savoir que son père est bel et bien vivant.
Le récit de Marion Dubreuil, reporter au service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
À vous de nous dire, dans un instant, au 32-16, à vous de nous dire si le gouvernement a raison de serrer la vis de l'assurance chômage à partir du 1er décembre. Il faudra avoir travaillé plus longtemps pour toucher une indemnité et la durée d'indemnisation sera bien rabotée, 15 mois au lieu de 18 actuellement. Est-ce que pour vous cette réforme est justifiée ou au contraire est-ce que vous n'y voyez qu'un moyen de faire des économies sur le dos des chômeurs? C'est ce que dénoncent en tout cas les syndicats. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Appelez-nous au 32-16. Vous laissez également vos messages sur l'appli RMC, rubrique direct studio. Et puis avant ça, on va retrouver Arthur Asquin pour RMC s'engage avec vous. Arthur qui vient en aide à Laurent ce matin, un sans domicile fixe qui attend désespérément sa carte vitale. À tout de suite.
RMC jusqu'à 6h. RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Merci d'avoir choisi RMC, il est 5h18.
Vous avez un problème ? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
RMC s'engage avec vous autour d'Arthur Asquin ce matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Bonjour. Vous nous parlez aujourd'hui, Arthur, de Laurent, qui a désespérément besoin de votre aide.
Oui, Laurent, 62 ans et sans domicile fixe. Il nous a écrit depuis son camion dans lequel il vit depuis 9 mois en Loire-Atlantique. Laurent a été développeur photo, carreleur, livreur. Et puis, il a tout perdu depuis la semaine dernière. Il a retrouvé du travail dans une entreprise de réinsertion. Mais le chemin est encore long. S'il nous a contacté, c'est pour sa santé. Son médecin soupçonne un cancer de la prostate. Mais Laurent attend sa carte vitale depuis 2 mois et ne peut pas avancer les frais des examens.
Des analyses de sang, des analyses d'urine et une échographie. Je peux pas y aller parce que sur mon compte, les sous, je peux pas les avancer. Je sais même pas où je vais envoyer les feuilles de maladie.
Il a fait toutes les démarches pour recevoir sa carte. Normalement, ça prend 2 semaines. Il se rend régulièrement au centre d'action sociale, mais toujours rien. Et pour lui, c'est aussi une question de dignité.
J'en ai pleuré, franchement. Je m'aperçois que l'administration, quand vous avez besoin d'elle, elle n'est pas là. Et puis, je demande pas l'aumône, hein. Je demande juste mes droits.
Vous avez, Arthur, gentiment secoué l'assurance maladie. Votre nouvelle meilleure amie RMC s'engage avec vous. Qu'est-ce qu'elle répond ?
Laurent a quitté les Pyrénées-Orientales pour la Loire-Atlantique l'été dernier et son dossier se serait perdu entre les caisses des 2 départements. L'assurance maladie nous explique avoir du mal à le joindre sur son téléphone portable. C'est étonnant car nous n'avons jamais eu ce problème. À la suite de notre alerte, la caisse dont il dépend nous promet que Laurent va bénéficier d'un suivi attentionné compte tenu de sa situation. Pour sa carte vitale, autant que pour ses examens et ses soins. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. On ne pouvait pas lui faire de plus beau cadeau, nous dit-il. Et on continue, bien sûr, d'accompagner Laurent jusqu'à ce qu'il reçoive le précieux document.
Et on lui souhaite évidemment un joyeux anniversaire à Laurent en espérant que cette situation s'arrange vite pour lui. On sait que vous allez suivre tout ça de très très près. Et puis, si vous aussi, vous avez besoin de contacter l'équipe d'Arthur Asquin, Amélie Rosic et toute l'équipe d'RMC s'engage avec vous. Vous connaissez l'adresse RMC avec vous, @rmc.fr. 5h21.
RMC, à vous de nous dire.
À vous de nous dire ce matin si le gouvernement a raison de mettre un peu plus la pression sur les chômeurs. Gabriel Attal a dévoilé hier les principales mesures de la réforme de l'assurance chômage. Elle doit entrer en vigueur le 1er décembre prochain. Il faudra avoir travaillé plus longtemps sur une période plus courte pour bénéficier des conditions d'indemnisation et la durée d'indemnisation va également être rabotée, 15 mois au lieu de 18 actuellement dans les conditions actuelles, c'est-à-dire avec un taux de chômage inférieur à 9%. Et on va en parler avec Ali qui nous appelle au 32-16. Bonjour Ali.
Bonjour Martin.
Bonjour Ali.
Ali, bonjour. Chauffeur poids lourd, vous nous appelez depuis la Loire, c'est ça ?
C'est ça.
Bon, vous avez connu le chômage et donc vous êtes bien placé pour juger de la qualité de cette réforme, de la pertinence de cette réforme de l'assurance chômage. Qu'est-ce que vous en pensez, ce tour de vis sur l'assurance chômage? Est-ce que c'est une bonne idée?
Eh ben, on va encore enfoncer un peu plus la tête des gens dans l'eau. Hein. On va encore plus les les achever, on va dire.
Ce que dit le gouvernement, c'est que c'est pour permettre de remettre au travail 90 000 personnes. Ça ouais, peut marcher.
Non, en fait, moi, je veux bien que tout le monde reparte au travail. J'ai connu ça. Mais en fait, qui est intéressé aujourd'hui pour aller travailler pour 1400 euros? Personne. En fait, c'est pas il n'est pas là le problème. Le problème, c'est de donner aux gens d'aller au travail. Il faut leur donner envie. Il y a personne qui a envie d'aller travailler pour 1400 euros alors qu'au chômage, il va toucher 1000 euros, mais il n'aura pas de frais de gasoil, pas de frais de garde. Pas de frais de cantine quand on a des enfants.
Il faut financer quand même le chômage aussi.
Mais en fait, pour le financer, il faut remettre les gens au travail, leur donner envie d'aller travailler, de dépenser de l'argent, parce que c'est pareil, qui dit gagner plus, dit dépenser plus. Mais j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde, nos politiques et nous, en fait. C'est vraiment... Ils sont à l'ouest.
Et justement, en durcissant les conditions d'accès, en limitant les durées d'indemnisation, et donc rendre le chômage un peu moins attractif, est-ce que ça ne va pas donner aux gens envie aux gens d'aller travailler?
Non, parce que les gens trouveront toujours des combines. Moi, le premier, je l'ai eu fait, avoir été au chômage et avoir travaillé... au black à côté, moi le premier, je l'ai eu fait. Ça va pas forcément donner encore plus envie, mais le problème, c'est qu'ils sont hors sol. Je pense qu'il n'y en a jamais aucun d'entre eux qui a été au travail. J'aimerais bien les faire travailler pour 1400 euros et voir, quand ils reçoivent leur facture, voir ce que ça fait, si ça va leur donner envie.
Quand vous dites on va trouver des combines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, avec cette réforme, il faudra avoir travaillé 8 mois sur 20 mois pour pouvoir toucher le chômage. Ça veut dire qu'on va continuer à multiplier les contrats courts?
Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'allez, demain, ils vont arrêter le chômage. Je prends un exemple, moi, je suis au chômage. J'arrive sur mes 15 mois. Je vais quoi? Je vais basculer au RSA, récupérer des APL, récupérer de la CMU pour me soigner. Récupérer des chèques pour l'électricité, pour ci, pour ça, ça sert à rien. C'est, pour moi, ça sert strictement à rien. Donner envie aux gens d'aller travailler.
Et donc, faire en sorte qu'il y ait des salaires un peu plus attractifs, c'est ce que vous nous dites ce matin. Ali, merci beaucoup de nous avoir appelé depuis la Loire ce matin. Ali, bonne journée.
Merci à vous aussi.
Et à bientôt, évidemment, au 32-16 sur RMC. On continue le débat tous ensemble. Vous continuez de nous dire ce que vous pensez de ce durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs. Est-ce que le gouvernement a raison de procéder comme ça? Est-ce que c'est justifié? Ou est-ce que c'est une réforme purement comptable et que ça ne va rien changer, comme nous le dit Ali ce matin au 32-16? Vous continuez de nous appeler au 32-16 et de laisser vos messages sur l'appli RMC rubrique direct studio, 5h25.
RMC, Charles Matin.
À suivre sur RMC, évidemment, dans 5 minutes, le journal de 5h30 avec à la une le projet de loi sur la fin de vie qui arrive cet après-midi à l'Assemblée nationale. Un texte sur l'aide à mourir qui suscite l'inquiétude parmi les soignants en service de soins palliatifs. Vous les entendrez, ces soignants, dans le journal. À 5h40, toute la bande sera là, toute la bande de Charles Matin qui va nous rejoindre.
Oui, il y aura la Story Sport d'Alex Biggerstaff. C'est un événement. Raphaël Nadal joue peut-être ce soir son dernier match sur la terre battue de Roland-Garros. Il y aura Anthony Morel qui sera là aussi pour C'est déjà demain.
Et puis ta solution conso tout de suite.
On part faire du shopping avec une simple pièce de 2 euros.
RMC, 5h-6h30. Charles Matin, le record du monde, RMC Garmin.
Salut, c'est Benoît Boutron sur RMC. Est-ce que ça vous plairait d'assister à un moment d'histoire? RMC s'empare du mythique Stade de Charletti le 8 juin et lance le record du monde de course. Tentative certifiée par le prestigieux Guinness Book des records. 350 km à courir en 24 heures par 144 coureurs. Assistez tout le week-end aux émissions d'RMC. Rencontrez les 24 champions stars du running qui nous aident dans cette tentative. Beaucoup de surprises, animations et de nombreux cadeaux à gagner. Et si vous souhaitez être acteur du record du monde RMC, contactez-nous par mail à l'adresse record@rmc.fr.
Entrée gratuite pendant toute la durée de la course. Toutes les infos sont à retrouver dans le podcast RMC Running. Le record du monde de course. Un événement RMC avec Garmin. Dimanche, à l'Hippodrome de Chantilly, c'est le Qatar Prix du Jockey Club. Avec RMC, une course spectaculaire où les meilleurs pur sang de 3 ans s'affrontent. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com et assistez à cette épreuve mythique. Le Qatar Prix du Jockey Club, dimanche à l'Hippodrome de Chantilly, avec RMC. RMC, 5h-6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Bon réveil sur RMC, il est 5h26.
RMC,
la solution conso.
La solution conso de Géraldine Demoury, comme tous les jours. Géraldine, on parle régulièrement des prix en hausse, on dit régulièrement que tout augmente. Il y a pourtant un magasin dont le concept est un prix qui ne bouge pas. Faut que tu m'expliques comment ça fonctionne parce que je suis perdu.
Oui, c'est le magasin à prix unique, celui où tu peux acheter n'importe quoi avec seulement une pièce de 2 euros. Certains de ces magasins existent depuis 30 ans. Effectivement, le prix n'a jamais bougé, hein, sauf au moment du passage à l'euro. Oui. On est passé de 10 francs à 2 euros. Donc, il n'y a pas besoin d'étiquette, hein, que ce soit une bougie, un gel douche. Chaque article est à 2 euros. Alors, on a tendance à se dire que ce n'est pas grand-chose, donc forcément, on va faire des économies, même si au final, on se retrouve vite à acheter pas mal de petites babioles et que la note peut monter plus vite que prévu.
Comment c'est possible, ça, pour un magasin de maintenir un prix fixe alors qu'on le sait, le prix des matières premières augmente, le prix du transport augmente également?
Mais en fait, dans ce type de magasin, c'est le produit qui va s'adapter au prix. Un produit qui va être un peu trop cher, on va changer un matériau, on va réduire un petit peu la taille, le poids, on va enlever de l'emballage pour que ça rentre dans le budget. Il y a quand même certains articles qui coûteront plus que 2 euros à produire, mais d'autres moins. Il y a des articles que vous pourrez trouver ailleurs pour 1,50 euros par exemple, mais comme au final tout est vendu au même prix, ça va compenser, ça permet à ces enseignes de se faire un petit peu de marge. Et puis il y a une autre source d'économie, c'est le marketing. Vous ne verrez pas de pub pour ce type de magasin, c'est pas la peine puisqu'on sait très bien ce qu'on va y trouver.
Oui, on sait que tout sera à 2 euros grosso modo. Ce genre de magasin, c'est typiquement ce genre d'enseigne qui a finalement bien profité de l'inflation.
Ouais, 15% de hausse de chiffre d'affaires en 2 ans pour les magasins, c'est 2 euros. Donc oui, les clients sont de plus en plus nombreux. Ce qui fait leur force, c'est aussi de pouvoir stocker la marchandise. Ça leur permet d'acheter des gros volumes directement auprès des usines et donc de bénéficier des meilleurs prix. Ils vont aussi acheter à contre-courant. Les décos de Noël, par exemple, vont être achetés en janvier pour être vendus au Noël suivant. Et puis, ils profitent de l'eau à bas prix dont les marques veulent se débarrasser. C'est ce qu'on appelle le déstockage. Et le succès de ces magasins qui est vraiment pas prêt de s'arrêter puisque de nouvelles ouvertures de boutiques sont encore prévues cette année en France.
Les bons plans de Géraldine Demoury que vous retrouvez évidemment tous les jours en podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Et à 5h29, on fait plaisir ce matin, comme tous les jours, avec le meilleur d'Arnaud Demange sur RMC. Arnaud, qui nous parlait vendredi de ce rendez-vous très attendu, la baignade dans la Seine d'une certaine Anne Hidalgo. C'est prévu pour le 23 juin prochain.
Et ben elle va mourir dessous. La Seine, quoi, la Seine. Alors normalement, elle ira avec Laurent Nunez et surtout Emmanuel Macron. Là, ils sont obligés. Ils ont trop dit qu'ils allaient le faire. Ils ont trop frimé. La Seine pourrait être marron avec des poissons crevés et un pH à 232. Il devrait y aller quand même. Emmanuel Macron, il va regarder la Seine en se disant « J'aurais dû laisser gagner Marine il y a 2 ans, en fait. » Même les rats, ils trouvent ça dégueulasse. Poutine, il n'a pas besoin d'envoyer à Macron un slip empoisonné. Notre président, il va s'empoisonner en slip tout seul, comme un grand.
Arnaud Demange qu'on retrouvera évidemment en direct tout à l'heure à 7h20, 8h20 autour de Charles Magnin dans Apolline Matin. Mais à 5h30, d'abord Géraldine Demoury, on lève les yeux et on regarde la couleur du ciel pour aujourd'hui.
Et ça ne change pas, c'est comme la semaine dernière, on va encore avoir un temps très perturbé. Et aujourd'hui c'est surtout sur le quart sud-est qu'on va avoir les averses orageuses les plus fréquentes. Sur le sud-ouest ça va être très gris avec de la pluie ce matin, avec quelques averses cet après-midi. Et puis sur une bonne moitié nord, on va avoir une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques averses plus localisées. Elle est température en baisse cet après-midi, il fera souvent 15 à 20 degrés, jusqu'à 25 en Corse.
La météo sur RMC avec BNP Paribas. Avec Tap to Pay sur iPhone et Accepta BNP Paribas, acceptez les paiements sans contact. Il suffit d'un iPhone.
RMC 5h30.
RMC, Charles Matin.
Les infos, c'est avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Martin, bonjour à tous. La France disposera-t-elle d'une aide à mourir? Les députés examinent le projet de loi sur la fin de vie aujourd'hui, début d'un long parcours législatif qui pourrait s'étendre jusqu'au moins l'été 2025. Dernière ligne droite pour les têtes de liste aux élections européennes à moins de 2 semaines du scrutin. Grand débat à vivre sur RMC et BFM TV ce soir 20h30. Et puis Charles Leclerc remporte à domicile le Grand Prix de Monaco en Formule 1, une première pour le pilote Ferrari.
Le projet de loi sur la fin de vie débarque aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Après une consultation citoyenne et un débat en commission, c'est à 16h cet après-midi que les députés vont se pencher sur le sujet. Une mouture remaniée par rapport à la version initiale proposée par Emmanuel Macron. La notion d'affection en phase avancée ou terminale a été remplacée par le terme de pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Une réécriture qui déplaît à la majorité et un texte qui divise le personnel soignant. Illustration au sein du service de soins palliatifs à l'hôpital Curie à Paris. Caroline Philippe.
Soucieuse, préoccupée.
Ça chamboule beaucoup cette idée de passer à un soin qui n'est pas un soin.
L'euthanasie donc inquiète Sandrine, l'infirmière suivra les débats à l'Assemblée nationale.
On discute beaucoup de ça, il faut qu'on soit justement informé.
Comme toute l'équipe, emmenée par le docteur Stéphanie Traeger.
Le texte de loi mêle le médecin et l'infirmier ou l'infirmière
au cœur du protocole de mort. J'ai fait un serment d'Hippocrate. Jamais on m'a appris à tuer.
Pourtant ici, Élodie, infirmière, accueille de nombreuses demandes.
La fin de vie, c'est l'ambivalence. Hein. Un jour, je veux mourir et le lendemain, je veux vivre. C'est pas possible, on peut pas demander à une loi de trancher en fait dans ce sens-là.
Et depuis l'ouverture du débat sur la fin de vie, les malades l'évoquent plus facilement avec le docteur Traeger.
Il y a de plus en plus de patients qui me parlent de cette fin de vie très rapidement, en ayant finalement une souffrance psychique certaine, mais aucun symptôme physique. Si il n'était pas pris en charge par une équipe spécialisée, qu'est-ce qu'il adviendrait d'eux ?
Si l'aide à mourir est légalisée, certaines soignantes se demandent même si elles continueront à exercer dans ce service.
Et Caroline Philippe pour RMC. Aller vers le plein emploi, économiser plus de 3,5 milliards d'euros. Idée du gouvernement qui a dévoilé hier les principales mesures de la réforme de l'assurance chômage à partir du 1er décembre. L'ouverture des droits va se durcir. La durée d'indemnisation sera réduite à 15 mois. Autre nouveauté, le bonus emploi senior visant à inciter l'embauche des plus de 57 ans, leur garantissant sur la première année un salaire équivalent au poste précédemment occupé.
Et on en débat tous ensemble ce matin au 32-16 sur l'appli RMC, rubrique direct studio. Est-ce que vous comprenez ce durcissement des conditions d'accès à l'assurance chômage, cette réforme? Est-ce qu'elle est justifiée ou est-ce que pour vous c'est juste un moyen d'économiser de l'argent sur le dos des chômeurs? On en débat, je vous le disais tous ensemble ce matin, on vous attend notamment si vous êtes demandeur d'emploi, si vous avez connu le chômage, dites-nous comment vous vivez ça, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Et puis on vous attend également si vous êtes patron, on l'a dit, les gouvernements qui veulent inciter à l'embauche des plus de 57 ans, est-ce que avec les annonces qui ont été faites ce week-end, vous seriez prêt à embaucher plus facilement peut-être des seniors des plus de 57 ans? Appelez-nous ce matin au 32-16, on attend vos témoignages, on attend vos avis, 32-16 et appli RMC, rubrique direct studio.
L'état d'urgence levé ce soir en Nouvelle-Calédonie, 20h, heure de Paris, 12 jours après son entrée en vigueur. Emmanuel Macron a décidé de ne pas prolonger la mesure afin de permettre aux loyalistes et indépendantistes de renouer le dialogue. La situation reste difficile sur place. 480 gendarmes mobiles supplémentaires seront déployés sur l'archipel dans les prochaines heures, annonce de l'Élysée. L'ex-maire de Canteleu devant les juges ce lundi, Mélanie Boulanger, son adjoint au commerce et 17 autres prévenus comparaissent pour complicité de trafic de drogue. L'ancienne édile de cette commune de Seine-Maritime encourt jusqu'à 10 ans de prison. Mais pour Jérémy Calfon, avocat de l'adjoint à la maire de Canteleu, les deux élus ont subi des pressions de la part du clan Mediani.
La question de savoir si le maire et l'adjoint au maire sont victimes est une vraie question dans ce dossier. Les enquêteurs eux-mêmes se sont posé la question et relèvent en tout cas la situation de pression psychologique exceptionnelle dans laquelle les deux élus étaient placés. Lorsque vous faites face à une famille entière, si vous déposez plainte contre les uns, vous pouvez subir des représailles des autres.
Une enquête ouverte à Lyon après une attaque au couteau qui a fait 4 blessés dans le métro hier après-midi. 2 sont en urgence absolue. Visé par une OQTF, le suspect a été placé en garde à vue. Aucun élément ne permet à cette heure de faire le lien avec une motivation terroriste. À Berlin, Emmanuel Macron appelle à voter pour les élections européennes. Le chef de l'État débute son déplacement de 3 jours outre-Rhin par un discours dans lequel il appelle à défendre la démocratie, regrettant, je cite, la fascination naissante pour l'autoritarisme dans nos pays. Un discours qui résonne à 2 semaines du scrutin européen. Les 8 principales têtes de liste seront sur RMC et BFM TV. Ce soir, grand débat dès 20h30, occasion pour de nombreux Français de se faire une idée sur les différents programmes des uns et des autres. Le reportage dans le Gard, Estelle Henry.
Des élections européennes qui, pour certains, comme Pierre et David, ne sont pas forcément une évidence.
Pas du tout, c'est vous qui me l'avez appris là il y a quelques secondes.
Oui, ça va m'intéresser, parce qu'on en parle de plus en plus.
Alors le débat de ce soir fait figure de rattrapage.
Et ça passe à la télé ? Ok, bah ça peut être intéressant de regarder ça justement pour se donner une petite opinion. Ouais.
Elle aussi sera devant son écran, Jazz, franco-américaine de 45 ans et plutôt de centre-gauche. Elle est fascinée par l'éloquence des candidats pour faire passer leurs idées.
Ce que j'aime, c'est entendre des personnes pour qui je ne voterai pas. J'aime la façon dont ils parlent. Il y a des personnes, c'est fascinant comment ils parlent. Ils ont un vocabulaire, une verbe magnifique. Extrêmement plaisant et très dangereux.
Un débat et des élections avec de vrais enjeux concrets, notamment pour Cyril, 42 ans, qui travaille dans la viticulture.
Je suis très intéressé par ce qui pourrait éventuellement découler des élections européennes. Ça va impacter les systèmes de production, les conditions de vie, les conditions de travail. Donc ça a un impact absolument énorme pour tout le monde.
Cyril qui s'inquiète d'un vote sanction qui profiterait aux extrêmes pour ce scrutin le 9 juin prochain.
Et le grand débat des européennes, c'est ce soir 20h30 sur RMC BFM TV avec Apolline de Malherbe et Maxime Switek. 5 Français qualifiés pour le second tour de Roland-Garros hier, à l'inverse d'Hugo Humbert battu en 4-7 par l'Italien Sonego. À suivre aujourd'hui, l'entrée en liste de Gaël Monfils, Hugo Gaston ou encore Clara Burel. Charles Leclerc, lui, s'est imposé enfin hier à Monaco, une première pour le pilote Ferrari qui s'impose à la maison. Il n'avait jamais connu jusque-là de déboire dans son état. Un week-end parfait pour le Monégasque qui s'est terminé dans l'émotion, Nicolas Paul Orsi.
Son sourire enfantin sur le podium traduit ses émotions. Quelques instants plus tôt, Charles Leclerc avait cassé le protocole. Une accolade pleine d'affection avec le prince Albert II, ému aux larmes. Cette victoire, Leclerc en rêvait depuis ses 5 ans.
No words can explain that.
Il n'y a pas de mots. C'est ici que j'ai rêvé de devenir un jour pilote de Formule 1. Je pensais à mon propre père. Il a tout fait pour que je sois ici. C'était notre rêve de gagner à Monaco. C'est incroyable.
Un hommage poignant pour son père disparu en 2017. En franchissant la ligne d'arrivée, Leclerc n'a pu retenir ses émotions. En tribune, c'est tout un circuit qui a vibré pour son champion, Matteo Monégasque.
C'est notre bébé, c'est l'enfant de Monaco.
Elodie, fan du pilote Ferrari, était même en pleurs.
Très émue parce que assister à la première victoire de Charles à Monaco, voilà, je m'en souviendrai toute ma vie.
Charles Leclerc a réalisé son rêve. Et pour célébrer, il a plongé dans le port de Monaco avec son patron Frédéric Vasseur. La malédiction est brisée et Monaco a enfin pu assister au sacre de son deuxième prince.
Et puis tiens, Martin Géraldine, j'imagine que vous connaissez « Maman, j'ai raté l'avion ».
Oui.
Oui, film des années 90, dans lequel Kevin se retrouve seul dans une immense maison. Et bien, cette bâtisse en briques de style georgien, construite en 1921 dans la banlieue nord de Chicago, est à vendre. 842 mètres carrés, 3 étages, 5 chambres, 6 salles de bain, qui vous coûtera tout de même 4,8 millions d'euros. Vous avez un peu d'argent à dépenser.
Avec ou sans les cambrioleurs
Sans,
c'est bon. Il
faut un gros système de sécurité. Quand
oui, c'est mieux. Parce que, effectivement, surtout si on oublie l'enfant au moment de partir en vacances.
Oui, alors ça, on vous le déconseille.
Oui, vérifiez quand vous partez.
Oh, ils s'en est bien sortis quand même.
Oui, ils s'en est bien sortis, mais pas sûr que tout le monde, tous les enfants puissent faire pareil. Les courses, Thibaut, c'est à Marseille-Borély aujourd'hui.
Exactement. C'est à Marseille-Borély. C'est à suivre sur RMC. Découverte en direct. Le 4, Morphe One est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 5, l'épargne, le 4 et le 5.
Merci beaucoup Thibaut, on suivra cette course tout ensemble, en espérant que tu donnes des bons conseils, même si c'est pas forcément les tiens. J'espère que tu te trompes pas sur tes conseils. Merci beaucoup, on te retrouve demain pour des nouveaux journaux, des nouveaux points sur l'info à 5h39. Géraldine, on va aller faire un tour sur Direct Studio. Pas mal de messages, vous réagissez nombreux aujourd'hui sur ce débat autour du durcissement de l'assurance chômage.
Exactement, il faudra travailler plus longtemps pour toucher le chômage sur une durée plus courte et ça vous divise. Aïcha nous dit que cette réforme va précariser plus les chercheurs d'emploi. Il faut arrêter de croire qu'on gagne tous 1500 euros en restant à la maison. Un taffeur qui nous dit, qui veut rester anonyme, qui est parti du principe qu'il fallait bosser. Et oui, effectivement, au début, on ne gagne pas beaucoup, mais il faut s'accrocher et ensuite on peut monter en grade. Pour Denis, cette réforme sur le chômage également est justifiée. Puis tiens, un petit message de Philippe qui souligne la belle victoire de Toulouse. Devenu champion d'Europe de rugby.
Et oui, c'était le Stade Toulousain champion d'Europe pour la 6e fois samedi, évidemment. Ce qui a fait partie de la réussite du sport français ce week-end. Mais évidemment, ce qui nous intéresse particulièrement ce matin, c'est ce débat. On continue d'en parler tous ensemble sur cette réforme de l'assurance chômage. Vous venez nous dire ce que vous pensez de ce coup de pression du gouvernement sur les chômeurs. Est-ce que c'est justifié ou non? On continue d'en débattre toute la matinée ensemble au 32-16 et sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio, 5h40.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Comme tous les matins, on joue avec l'actu, on essaie de vous faire gagner un joli cadeau. Pour ça, il faut que vous répondiez à une question, Géraldine.
Quel ancien numéro 1 mondial fait son entrée aujourd'hui à Roland-Garros?
La réponse, on l'a entendue dans le journal de Thibaut Texer. C'est quelqu'un de très connu, qui a gagné beaucoup de titres à Roland-Garros, qui a brillé sur un peu toutes les terres battues du monde, et pas que. Quelqu'un de très connu. Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16.
Et vous pourrez gagner un super radio réveil de la marque Emus pour vous réveiller tous les matins avec RMC.
Quel ancien numéro 1 mondial fait son entrée aujourd'hui à Roland-Garros? Vous avez la réponse, vous prenez votre téléphone, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Les indiscrets RMC avec ce matin le service politique d'RMC représenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Bonjour.
C'est l'événement politique ce soir sur RMC, BFM TV, 20h30. Le débat des têtes de liste aux européennes avec une candidate qui joue très gros, c'est Valérie Ayé, la tête de liste macroniste en coulisses. Sébastien, vous nous révélez que la majorité commence à sérieusement s'inquiéter.
Oui, avec un scénario catastrophe de plus en plus redouté, celui du croisement des courbes. Et si le camp présidentiel devait se contenter de la troisième place? Et si Raphaël Glucksmann passait devant? Tout est possible, a reconnu lui-même Emmanuel Macron ce week-end. Il suffit d'aller sur le terrain, les gens vous le disent, constate une ancienne ministre. Les sondages n'ont rien de rassurant, à moins de 2 points d'écart, c'est la marge d'erreur. Et dans la majorité, les langues se délient. Une candidate pas suffisamment identifiée, une campagne qui manque de coups d'éclat, des erreurs stratégiques. Avoir dit que Glucksmann vote comme nous, une connerie, se lâche une ministre. On a le vent de face, reconnaît un cadre de la campagne. Mais ça va bouger dans la dernière ligne droite, continue de croire à un conseiller ministériel. L'entourage de la candidate mise beaucoup sur le débat de ce soir sur RMC, mais avec quelle attitude? Faut-il tacler, attaquer le candidat socialiste ou l'ignorer? En faire une cible, c'est le faire monter, plaident certains. Il n'y a pas d'hémorragie vers Glucksmann, se rassure un proche. Qui manque, c'est surtout l'électorat macroniste. Ce sont des gens qui n'ont pas envie d'aller voter. Il faut les réveiller, dit un proche du président. Et qui de mieux pour le faire Emmanuel Macron lui-même? On va beaucoup le voir dans les prochains jours en Allemagne, puis sur les plages du débarquement et pourquoi pas dans un meeting. Il en a très envie, dit-on dans l'équipe de campagne.
Un discret signé Sébastien Krebs du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
5h43 sur RMC, toute la bande de Charles Matin est là, déjà en studio pour vous, Alex Biggerstaff pour la Story Sport.
Salut, ce n'est aujourd'hui que le deuxième jour de la quinzaine de Roland-Garros, et pourtant c'est probablement le plus attendu du tournoi, je vais vous dire pourquoi.
C'est déjà demain, Anthony Morel est déjà là également. Salut Anthony.
Salut tout le monde, des nouvelles fonctions anti-vol pour nos smartphones, que ce soit Android ou iPhone, je vous dis tout à l'heure.
Prometteur, et puis comme chaque jour, ton bonus Géraldine.
Je vais vous parler du nouveau roi français de YouTube.
Et puis on a Benjamin, tiens, qui nous appelle au 32-16 et qui va s'installer avec nous autour de la table pour réagir à tout ça. Vous n'hésitez pas, vous aussi, à venir témoigner. On en débat tous ensemble, on continue de parler de l'actu tous ensemble sur RMC. À tout de suite.
RMC, Charles Matin.
Et à 6h moins le quart, toute la bande de Charles Matin est là dans le studio d'RMC pour vous servir, vous parler de l'actu sport avec Alex Biggerstaff qui va nous parler d'un dernier match d'un grand du tennis mondial, Anthony qui a plein d'astuces pour vous protéger contre le vol de smartphone, Géraldine qui va nous parler du nouveau roi français de YouTube, et Benjamin qui nous rejoint également au 32-16. Bonjour Benjamin.
Oui, bonjour à tous.
Salut Benjamin.
Depuis les Vosges, Benjamin, je vous avais noté ce magnifique bonjour en cœur de toute la bande RMC. Benjamin, on débat ce matin de l'assurance chômage, ce tour de vis annoncé par le gouvernement qui a dévoilé hier ces mesures de cette réforme qui entrera en vigueur le 1er décembre. Il faudra travailler plus longtemps sur une période plus courte pour avoir droit au chômage. La durée d'indemnisation sera également raccourcie de 3 mois. On va passer de 18 à 15 mois. Est-ce que c'est une bonne idée, tout ça, Benjamin?
Bah, écoutez, moi, je trouve que, contrairement à tout ce que j'entends, c'est une très bonne idée. Mmh. J'ai été confronté moi-même au chômage 3 fois sur ma période, dont la dernière qui a été très surprenante pour moi, parce que j'ai été chef d'entreprise pendant plus de 2 ans. Sur un bar de village, j'ai eu des différends avec mon propriétaire. Du coup, j'ai dû liquider mon entreprise.
D'accord.
Quand j'ai contacté donc France Travail, qui était en passation avec Pôle emploi, il m'explique qu'un dirigeant d'entreprise n'a pas accès au chômage et tout ça. Je l'entends très bien. Il me dit « Ah, mais vous avez travaillé auparavant, donc on va vous rouvrir vos droits. » Je fais « Ah bon ?» Ils me disent « Oui, pas de souci, vous verrez. » Donc 24 heures après, je me connecte sur leur application. Effectivement, 1 an et demi de chômage.
Et donc, vous avez pu être indemnisé. C'était intéressant ou pas?
Ah ben, je gagnais mieux ma vie que de faire des heures dans un bar, ouais. Exactement.
et ça, pour vous, c'est pas normal, j'imagine?
Tant mieux pour moi, mais j'ai été agréablement surpris à ce moment-là, quoi. Donc, comment motiver quelqu'un à retourner au boulot? Alors moi, clairement, j'ai passé 3 mois... au chômage. Je viens de reprendre un emploi là, il y a une quinzaine de jours. Je me suis mis à rechercher, on va pas dire activement, mais j'ai cherché en triant un peu. Et j'ai eu des bagages avant dans le commerce qui m'ont permis de reprendre là un emploi de chef de secteur. Mais honnêtement, au bout de 3 mois, c'est plus possible.
Quand
à la maison, c'est oui, on est en famille, on revoit un peu de monde.
Oui, au bout de 3 mois,
à la maison,
on a fait le tour des occupations. Mais vous disiez, j'ai cherché, mais en triant les annonces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous preniez des annonces où financièrement vous gagnez plus que ce que vous touchiez au chômage?
Oui, voilà, exactement. Ouais. Mmh. Exactement. Alors, j'ai eu quelques entretiens avant d'arriver à celui-ci. J'entends très bien tout le monde qui dit toucher 1400 euros par mois, c'est pas possible, on préfère rester au chômage. Mais ayant eu cette double casquette, payer un employé toujours plus cher, on a une problématique aujourd'hui, c'est qu'un employé coûte excessivement cher.
Et donc ce tour de vis là sur les chômeurs, c'est plutôt une bonne idée pour remettre les gens au travail. En tout cas, c'est ce que vous pensez vous ce matin.
Moi, je trouve pas ça incohérent. C'est-à-dire que du travail, il y en a. Moi, étant dans un petit village auparavant, où il y avait une très grosse industrie fromagère, comme j'entendais les anciens employés qui venaient, enfin les plus anciens en tout cas, et qui nous disent, les jeunes, ils n'écoutent plus rien, ils veulent rien faire. Dès qu'ils ont un CDI, c'est arrêt maladie ou ça arrive, ça prend des pauses. C'est aberrant.
Mais en tout cas,
je comprends qu'aujourd'hui, tout le monde devient dingue avec ça.
En tout cas, ça peut aller dans le bon sens. En tout cas, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que vous partagez l'avis de Benjamin, vous, ce matin, sur RMC? Venez nous le dire. Vous nous appelez, le débat continue au 32-16. Benjamin, restez avec nous parce que si cet après-midi, alors vous allez retrouver un travail, vous allez peut-être être occupé, mais si cet après-midi, vous en avez l'occasion, regardez ce qui se passe sur le cours Philippe Chatrier du côté de Roland-Garros. Alex Biggerstaff, c'est l'entrée en lice d'un certain Raphaël Nadal pour peut-être sa dernière tournée sur la terre battue parisienne.
Oui, on le sait, on le sent, on l'appréhende. Cette troisième rotation de la journée sur le Philippe Chatrier vers 15-16 heures va faire partie de ces grands moments de sport ou d'émotion tout simplement. Nadal de retour en son royaume, 14 fois vainqueur à Roland-Garros, recordman absolu, empereur de la terre battue, absent l'an dernier pour cause de blessure, une anomalie depuis son premier sacre en 2005.
Des blessures à répétition qui l'ont éloigné des cours pendant plus d'un an.
Et il a fait son retour qu'en janvier dernier à Brisbane et nous a fait de la peine depuis, multipliant les rechutes. Forfait à Monte Carlo, il n'a enchaîné que 2 matchs à Barcelone, 4 à Madrid et 2 seulement à Rome où il a été sèchement battu. Mais écoutez ce qu'il disait hier sur RMC, il était l'invité de Bartoli Time.
Well, I'm just trying to build step by step.
Vous savez, je pense que c'est la première semaine où je suis capable, d'une certaine manière, de m'entraîner en pensant au tennis. Je me sens avec moins de limites physiques que les semaines précédentes, donc cela me permet de commencer à croire que les choses peuvent aller mieux maintenant.
Et oui, un petit message d'espoir avant d'affronter cet après-midi au premier tour le numéro 4 mondial Alexander Zverev après un tirage au sort bien difficile, car il y a cette probabilité et oui aussi que cet après-midi soit sa dernière à Roland, il ne l'a pas confirmé. Et pour la directrice du tournoi Amélie Mauresmo, aucun adieu n'est prévu en cas de défaite à la demande de l'Espagnol.
On était prêt à appuyer sur le bouton, mais franchement, c'est lui qui gère son timing, c'est lui qui décide. On l'accompagnera le moment voulu, mais c'est lui qui choisit son timing. Donc soyez pas surpris s'il y a rien de sur le court le moment venu.
Il est chez lui.
On demande à voir quand même. Nadal du côté de la porte de Teuil, c'est depuis 2005 et sa première participation. 112 victoires en 115 matchs en 18 éditions cet après-midi, chose rare. Le temps va s'arrêter, les oiseaux ne chanteront plus pour un 279e mondial. Oui, mais pas n'importe lequel. Victoire ou défaite, ce moment de bascule est très attendu. Malgré son toit rétractable flambant neuf, il est probable qu'à l'intérieur du Châtrier, il pleuve beaucoup ce soir.
Et on suivra ça évidemment sur RMC toute la journée pendant les nocturnes RMC. C'est en direct des principaux cours pour vous faire vivre toute la compétition tennis du côté de la Porte d'Auteuil avec la radio digitale RMC 100% terre battue. Vous pourrez évidemment suivre ce possible dernier match de Raphaël Nadal.
On l'espère pas.
À Roland Garros.
En espérant que les gradins soient remplis parce qu'on a eu les images.
Oui.
Là, c'est que
ça devrait être un peu plus rempli.
Je pense quand même.
Mais ça,
il faut en parler aussi. C'est scandaleux.
Ouais. Ça devrait être rempli. Anthony Morel, tu nous parles ce matin là de nos smartphones qui sont de plus en plus difficiles à voler. En tout cas, ils vont le devenir de plus en plus difficiles à voler, puisque bientôt nos téléphones comprendront par eux-mêmes qu'ils ont été volés. Ils vont se verrouiller automatiquement pour empêcher que le voleur n'accède à quoi que ce soit.
C'est ça, dans un scénario classique où tu te balades dans la rue, où t'es dans le métro, t'es les yeux sur ton smartphone et là, vol à l'arraché, le coup classique, et bientôt ton téléphone pourra détecter lui-même qu'on vient de le voler et il va se bloquer automatiquement pour empêcher le voleur d'avoir accès à quoi que ce soit. C'est une fonctionnalité qui a été annoncée par Google il y a quelques jours, qui va arriver sur tous les smartphones Android dans les semaines qui viennent. Alors pour ça, on va utiliser en fait les capteurs du téléphone couplés à de l'intelligence artificielle. En fait, l'appareil va avoir une compréhension de la situation. Il va comprendre qu'il a été arraché de vos mains, c'est un geste brusque et soudain, et qu'immédiatement après, la personne est en train de courir. Le voleur est parti avec le téléphone et là, il se dit « Ah bah, il y a un truc bizarre qui est en train de se passer ». Et là, paf, le téléphone est complètement bloqué et donc le voleur se retrouve avec une brique dans les mains, il ne peut plus rien faire. C'est pas la seule fonctionnalité anti-vol qui va être mise en place. Par exemple, si le voleur déconnecte le téléphone pendant longtemps pour éviter qu'on ne puisse le localiser, par exemple, eh bien là encore, l'appareil va le comprendre et va se verrouiller automatiquement. Si quelqu'un essaye de désactiver la fonction localiser mon appareil, là aussi, il va se dire c'est très bizarre et là aussi, il va lui demander de s'identifier avec son visage ou ses empreintes digitales. Et comme c'est un voleur, évidemment, ça va pas fonctionner. Dernière fonctionnalité vraiment pas mal, on va pouvoir créer à l'intérieur du téléphone un espace privé où seront placées toutes les applications les plus sensibles, applications bancaires, celles qui sont liées à la santé et pour lesquelles il faudra une identification supplémentaire, une sorte de coffre-fort numérique à l'intérieur de ton téléphone. Ça, c'est pas mal non plus.
Ça peut nous enlever quelques coups de stress. Effectivement, ça, c'est pour les téléphones Android. Sur iPhone, il y a des solutions également ?
Ouais, bien sûr. Il y a aussi des mesures anti-vol qui ont été mises en place ces derniers mois. Alors là, dans l'éventualité où vous faites arracher votre téléphone et que le voleur connaît le code de déverrouillage parce qu'il vous a observé avant, c'est des choses qui arrivent, hein. Et ben, il y a une fonctionnalité protection contre le vol d'appareil. Il faut l'activer dans les réglages. Je vous engage à le faire d'ailleurs. Et quand elle est activée, eh bien, toutes les actions sensibles, consulter son dictionnaire de mots de passe, activer les moyens de paiement, tout ça va être protégé par une identification biométrique supplémentaire. Si le téléphone détecte que vous êtes loin de vos lieux habituels, que vous n'êtes pas à votre travail ni dans votre maison, même chose, l'accès à certains paramètres va être restreint. Si vous essayez de changer de mot de passe, par exemple, ce qu'un voleur va essayer de faire immédiatement si vous avez pris votre téléphone, eh bien là aussi, on va demander « Oui, mais alors attends, montre-moi ton visage pour être sûr que c'est bien le bon propriétaire. » Évidemment, ça ne va pas fonctionner. Et si vous n'êtes pas chez vous, on va vous demander deux reconnaissances faciales à une heure d'intervalle, ce qui permet à la victime de localiser son appareil et de le bloquer à distance. Donc, toutes ces mesures-là mises bout à bout font que on va pas empêcher qu'on vous vole votre téléphone. Ça arrivera toujours, malheureusement. Mais le téléphone sera complètement inutilisable. Et ça, c'est quand même pas mal.
Et ça peut nous rassurer, effectivement, quand on se balade dans la rue. Merci beaucoup, Anthony, pour tes bons conseils. Tiens, le téléphone, on peut l'utiliser pour regarder des vidéos YouTube, par exemple. Ça tombe bien, ton bonus, Géraldine. Ce matin, c'est le nouveau roi français de YouTube.
Oui, il s'appelle Thibaut Delaparre, mais vous le connaissez peut-être plus sous le nom de Thibaut InShape.
Bien sûr,
oui. Français le plus suivi sur YouTube depuis hier avec ses 18 900 000 abonnés. Il vient de dépasser Squeezie. D'ailleurs, c'est l'objectif de celui qui s'est d'abord fait connaître il y a plus de 10 ans avec ça.
C'est parti! On fait un peu de squat. Le squat, l'exercice connu, reconnu de tous.
Donc des vidéos d'entraînement pour aider ses fans à prendre du muscle. Ces vidéos ont été vues 12 milliards de fois sur YouTube. Il y a aussi 11 millions et demi de followers sur TikTok, 9 millions sur Instagram. Un succès qui s'accompagne aussi, évidemment, de polémiques. Un moyen de faire parler de soi, avait-il précisé un jour. En tout cas, il a quand même été accusé de misogynie, de racisme, d'homophobie. Il avait publié une vidéo pour s'expliquer, s'excuser. Vidéo vue 400 000 fois, on est bien loin des dizaines d'autres vidéos vues des millions de fois.
J'ai pas pour habitude de me justifier quand on m'accuse de quelque chose sur les réseaux, mais dernièrement, ça allait beaucoup trop loin. Non, je suis pas misogyne. Non, je suis pas raciste. Non, je suis pas homophobe, transphobe. Non, je suis pas psychophobe. Et non, je suis pas grossophobe.
Voilà, maintenant il s'est diversifié. Il nous propose par exemple de découvrir des métiers comme ingénieur dans une centrale nucléaire ou chauffeur de bus.
Le succès de Thibaut InShape raconté par Géraldine Demory. Merci beaucoup à tous les trois. Merci également Benjamin de nous avoir appelé depuis les Vosges ce matin au 32-16. Dans un instant, on se retrouve sur RMC, RMC Story pour le journal de 6h avec à la une la situation qui reste toujours difficile en Nouvelle-Calédonie. L'état d'urgence ne sera toutefois pas prolongé dans l'archipel. À tout de suite.
Vous êtes sur RMC, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info à 6h, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Martin, bonjour à tous. La fin ce soir de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, en place depuis 12 jours, c'est l'annonce de l'Élysée dans la soirée. De nombreuses réactions ce matin au nouveau bombardement israélien qui a fait au moins 35 morts dans la bande de Gaza. Le Hamas dénonce un massacre. Il y a un Marocain de 27 ans qui a passé la nuit en garde à vue, toute la nuit, au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait 4 blessés, c'était hier dans le métro à Lyon.
Un quart calciné, 38 blessés, 10 interpellations des supporters lyonnais et parisiens en train de se battre sur l'autoroute au niveau d'une barrière de péage. C'était quelques heures avant la finale de la Coupe de France samedi soir. On va essayer de comprendre comment on en est arrivé là, juste après le journal à 6h10, avec Abdelkrim Branine, journaliste co-auteur du livre Chaos Football Club. Ce sont les dernières heures sous état d'urgence en Nouvelle-Calédonie.
Instauré le 15 mai après des violences qui ont continué depuis et qui ont fait au moins 7 morts, il va donc être levé dans la soirée pour permettre aux élus locaux et aux indépendantistes bien d'aller sur les barrages, hein, Julien Coudreau.
Oui, l'état d'urgence sera levé ce soir à 20h, heure de Paris, 5h du matin à Nouméa, 12 jours exactement après son instauration. Au-delà, un vote du Parlement aurait été nécessaire pour le prolonger, ce ne sera donc pas le cas. L'Élysée fait savoir que cette levée de l'état d'urgence doit permettre les réunions des différentes composantes du FLNKS, les partis indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, ainsi que les déplacements sur les barrages des élus et responsables en mesure d'appeler à leur levée. Emmanuel Macron rappelle d'ailleurs que c'est la condition nécessaire à l'ouverture de négociations concrètes et sérieuse. Discussion que doit mener la mission de médiation composée de 3 hauts fonctionnaires nommés par le chef de l'État lors de sa visite express dans l'archipel jeudi. En parallèle, 7 unités de force mobile supplémentaires, soit 480 gendarmes mobiles, seront envoyés en renfort sur place dans les prochaines heures.
L'autre information de la nuit, elle suscite déjà de nombreuses réactions, c'est cette nouvelle frappe israélienne dans la bande de Gaza. Cette fois à Rafah, frappe qui a fait au moins 35 morts. Le Hamas accuse Israël d'avoir commis un massacre dans un centre de déplacés. L'armée israélienne assure de son côté qu'elle a respecté le droit international en ciblant des terroristes. Écoutez ce qui s'est passé avec Romain Houg.
Le feu et le chaos à Rafah, dans ce quartier ouest de la ville. Les flammes ravagent tentes et abris de fortune des déplacés palestiniens. Partout autour, les cris, les sirènes des ambulances. Dans les hôpitaux, les morts et blessés affluent par dizaines. Un atroce massacre, dénonce la présidence palestinienne, résultant d'une frappe menée par l'armée israélienne qui, elle, dit avoir visé avec précision un complexe abritant des membres importants du Hamas. Deux responsables de l'organisation auraient été tués selon Tzahal, qui indique dans un communiqué avoir été informé que plusieurs civils ont été blessés lors du bombardement. Hier, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit fermement opposé à la fin de la guerre, réclamée selon lui par le chef du Hamas. Un peu plus tôt dans la journée, les sirènes ont retenti pour la première fois en 4 mois à Tel Aviv, visée par 8 tirs de roquettes en provenance de Rafah. Plusieurs ont été interceptés par la défense antiaérienne d'Israël.
Et ce nouveau bombardement fait réagir la classe politique en France. À gauche, le socialiste Olivier Faure dénonce une boucherie, un massacre, dit l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. La candidate insoumise d'ailleurs aux élections européennes, Rima Hassan, appelle à un rassemblement ce lundi en France devant l'ambassade d'Israël. À moins de 2 semaines donc des élections européennes, c'est l'événement ce soir d'ailleurs sur RMC, BFM TV, le débat des 8 principaux candidats présentés par Apolline de Malherbe et Maxime Switek. Les derniers sondages, vous le savez, donnent le RN loin devant, Renaissance et le PS au coude à coude, les Verts seulement en 6e position. David Cormand est le numéro 2 sur cette liste écolo. Il attend beaucoup du débat ce soir sur RMC.
L'enjeu, c'est d'éclairer le débat sur l'enjeu des élections européennes, puisque le 9 juin, c'est un seul tour où on peut choisir le projet européen dont on se sent le plus proche, sans arrière-pensée tactique. Et de mon point de vue, c'est soit la régression avec un pacte brun à la fois sur l'écologie et sur les idéologies, un statu quo avec la coalition actuelle droite, centre, socialiste, ou un pacte vert qui fait avancer la cause écologique et celle des droits humains et des justices pour les 5 années qui viennent.
Et Emmanuel Macron, en visite d'État de 3 jours en ce moment en Allemagne, multiplie ses sorties sur l'Europe, discours à Dresde en ex-RDA aujourd'hui, et cette déclaration, c'était hier à Berlin, non sans faire écho au RN, vous allez l'entendre donner en tête des sondages.
Je crois vraiment que notre Europe peut mourir. D'abord parce qu'on a le retour de la guerre en Europe, avec l'agression russe en Ukraine. Et puis parce que je pense qu'on a une forme de crise de nos démocraties. Et à un moment très ambigu dans notre continent, qui est de dire, au fond, cette Europe, elle serait plus simple si on serait nationaliste. Mais si les nationalistes avaient été aux affaires en Europe, nous n'aurions pas eu le vaccin en tant qu'Européens. On n'aurait pas eu de plan de relance européen. On aurait lâché l'Ukraine pour soutenir la Russie. Donc pour toutes ces raisons, c'est important d'aller voter aux Européennes pour le parti qu'on soutient et qui soit un parti qui défend l'Europe. Parce que je suis convaincu que c'est l'Europe qui permet de défendre la démocratie et la capacité à répondre ensemble à ces défis.
À propos de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky en déplacement pour la première fois en Espagne aujourd'hui, au moment où l'Italie de Giorgia Meloni s'oppose à l'usage des armes européennes fournies aux Ukrainiens contre le territoire russe. Débat sur la fin de vie, le début aujourd'hui dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale avec l'arrivée donc du projet de loi qui fait en parler avec pour la première fois, vous le savez, une aide à mourir en cas de phase avancée ou terminale et non plus lorsque le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Le texte a été remanié en commission, contre l'avis d'ailleurs de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui sera l'invitée de RMC ce matin à 8h30. Les malades ont été entendus, disent les défenseurs du texte. Texte le plus permissif au monde, déplore les opposants. À 6h05 sur RMC, un suspect de 27 ans marocain en garde à vue toujours donc ce matin à Lyon au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait 4 blessés. C'était hier en début d'après-midi dans le métro lyonnais, station Jean Jaurès sur la ligne B. Lucas Laubert pour RMC, vous avez des précisions.
Oui, il est 14h30 quand la police est appelée par un témoin. Dans le métro, un homme attaque plusieurs personnes avec un couteau. 4 sont blessés. Selon les informations de BFM TV, après l'agression, l'auteur prend la fuite, remonte à la surface. Seulement 5 minutes après le signalement, une équipe de la BAC l'interpelle sans difficulté dans la rue. Aucun élément ne permettrait de faire le lien avec une motivation terroriste. L'homme, un Marocain de 27 ans, était visé par une obligation de quitter le territoire français avec un profil psychiatrique chargé, selon Fabienne Bucio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il a fait plusieurs passages dans plusieurs établissements psychiatriques et il n'était absolument pas connu d'aucun de nos fichiers. Il ne présente pas de profil particulier, si ce n'est un profil psychiatrique assez lourd.
L'agresseur a été placé en garde à vue. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire est ouverte.
La préfecture du Nord évoque une erreur d'organisation pour expliquer les affrontements entre Parisiens et Lyonnais. Samedi, sur la route de Lille, où se tenait la finale de Coupe de France de football, un bus calciné, 30 blessés. La moitié des bus lyonnais en fait n'ont pas respecté le point de rendez-vous qui était fixé. L'un d'eux s'est retrouvé au milieu du cortège parisien à un péage. Mohamed était présent à cet endroit, en voiture, avec ses enfants, supporters parisiens. Il témoigne ce matin.
Quand c'est arrivé, j'étais avec mes 3 enfants, donc il y a eu une petite crise de panique. Quand je suis arrivé au péage, il y avait un bus qui est arrivé juste derrière moi. Les supporters sont descendus du bus, ils sont attaqués au bus qui était sur la droite. C'était un peu la pagaille, ils ont commencé à taper. Les CRS arrivaient au même moment, armés avec les lacrymogènes, et ils traversaient la barrière de péage. Donc moi, j'ai juste eu le temps de dire à mes enfants, cachez vos maillots. J'ai forcé la barrière de péage, c'est l'instinct de survie, parce que moi, je suis avec mes enfants, là. Vous essayez de fuir avec les enfants, vous êtes toujours un coup de stress.
5 sur 8 pour les Français hier au premier tour de Roland-Garros. Corentin Moutet, dernier qualifié, c'était dans la soirée. Il y en aura 11 aujourd'hui. Et l'Espagnol, c'est l'événement. L'Espagnol Rafael Nadal contre l'Allemand Alexander Zverev. Un peu plus de 10 000 personnes hier après-midi à Toulouse sur la place du Capitole pour fêter la 6e victoire en Coupe d'Europe des Toulousains d'Antoine Dupont qui ne prend même pas de repos. Il part en stage avec le rugby à 7 en vue des JO. Dès aujourd'hui. Et puis l'image du week-end, c'est la joie de Charles Leclerc, le monégasque vainqueur pour la première fois chez lui du Grand Prix de Monaco en Formule 1. Plongeons dans le port pour fêter ça pour Charles Leclerc pendant que les Français ruminaient Esteban Ocon et Pierre Gasly qui sont accrochés dès le premier tour.
Et Pierre Gasly qui finit quand même dans les points, 10e place pour le Français. Un beau week-end de sport qu'a certainement suivi Manu Le Chip. Salut Manu.
Bonjour à tous.
On a suivi un peu tous les événements.
Les deux. Moi, Toulouse et Leclerc à Monaco, ça a été mes deux kiffs sportifs du week-end.
C'était assez sympa à suivre, Manu. On te retrouve dans un instant, dans quelques minutes pour Manu Conso, évidemment. Mais d'abord, à 6h09, on joue ensemble.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et on joue avec l'actu, on vous pose une question d'actu comme tous les matins, vous y répondez pour tenter de gagner un joli cadeau. D'abord la question, Géraldine, aujourd'hui.
Quel ancien numéro 1 mondial fait son entrée aujourd'hui à Roland-Garros?
On en a parlé il y a quelques instants, c'était Quentin Vinet qui vous en a parlé il y a quelques minutes. La réponse, vous l'avez donc forcément entendu, vous pouvez prendre votre téléphone et envoyer le mot actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16.
Et si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner un très joli radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC.
Le radio réveil part chez vous si vous avez la réponse à cette question. Quel ancien numéro 1 mondial fait son entrée aujourd'hui à Roland-Garros? Vous envoyez actu par SMS au 732-16 pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
38 blessés, un bus incendié, des familles, des enfants traumatisés après des scènes de guérilla urbaine sur un péage de l'autoroute A1. Samedi, des supporters parisiens et lyonnais se sont affrontés quelques heures seulement avant la finale de la Coupe de France. Bonjour Abdelkrim Branine.
Bonjour.
Journaliste, co-auteur du livre Chaos Football Club. Comment de telles violences ont pu se produire? Faut-il interdire tous les déplacements de supporters? Faut-il dissoudre les groupes ultra? Vos réponses dans un instant sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
Bon réveil à tous sur RMC, il est 6h13.
L'invité de Charles Matin.
Bonjour Abdelkrim Branine. Merci Bonjour. D'être avec nous ce matin sur RMC et RMC Story. Vous êtes journaliste, co-auteur du livre Chaos Football Club avec un certain Daniel Riolo, qu'on connaît bien ici, évidemment. Le chaos, justement, c'est l'un des mots employés depuis samedi soir pour décrire ce qui s'est passé à ce péage d'autoroute près d'Arras, quelques heures avant la finale de la Coupe de France. Ce bus complètement brûlé, ces centaines de supporters, je ne sais même pas si on peut appeler ça des supporters, ces pseudo-supporters parisiens, lyonnais, en train de se taper dessus, des scènes de guérilla urbaine à un péage d'autoroute, 38 blessés, une dizaine d'interpellations.
presque un miracle que le bilan ne soit pas plus grave. Tout ça alors que le match était classé à très haut risque par les autorités. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et est-ce que ça vous a surpris finalement qu'on en arrive là?
Surpris, évidemment, lorsqu'on voit ces images de bus en feu, c'est impressionnant. Maintenant, surpris à moitié, puisqu'on sait qu'il y a eu à plusieurs reprises des incidents au niveau du championnat de France, notamment avec l'équipe de Lyon, avec l'équipe du Paris Saint-Germain également. Le travail n'a clairement pas été fait par les instances dirigeantes du football français. Après, évidemment, il y a une enquête qui est ouverte. Il reste à déterminer les responsabilités de chacun, et notamment celle du ministère de l'Intérieur, puisque tous ces bus étaient sous escorte policière.
Vous l'avez dit, c'est pas le premier épisode et pas le premier épisode de la saison. On se souvient de ce qui s'est passé à Marseille lors du déplacement de l'Olympique Lyonnais. On se souvient de ce qui s'est passé à Nantes avec ce supporter nantais qui a été tué avant la rencontre entre Nantes et Nice il y a quelques mois. En général, on dit qu'on apprend de ses erreurs. On n'apprend pas de nos erreurs, nous, en France, à ce niveau-là?
Non, alors c'est qu'en France, par exemple, au niveau des ministres, on démissionne pas, et on a l'impression qu'au niveau des instances dirigeantes, c'est la même chose. Actuellement, au niveau de la FFF, puisque la Coupe de France est organisée par la FFF, on a un président intérimaire, Philippe Diallo, qui a pris le relais après le départ et tout ce qu'on sait concernant Noël Le Graët. Et il n'y a pas de fermeté de sa part, quoi. En plus, ce monsieur, il est en campagne, puisqu'il y a des élections en décembre prochain.
Hier, il était sur RMC, il exclut toute sanction collective et des interdictions de déplacement généralisées.
Ça veut dire qu'on va continuer comme ça. Il a également parlé à plusieurs reprises de responsabilité individuelle. On ne peut pas se défausser lorsqu'on est le personnage le plus important du football français.
Mais comment on peut faire justement pour éviter que ce genre de situation se reproduise? C'est quoi? C'est, on va le dire clairement, faut interdire tous les déplacements de supporters, faut dissoudre les groupes ultra.
Alors, d'après Philippe Diallo, il dit qu'en fait, interdire tous les déplacements, ce serait un échec. En effet, ce serait son échec, l'échec des instances dirigeantes du football français. Maintenant, on doit exiger de la part de chaque club de faire, entre guillemets, le nettoyage au niveau de ces ultras, puisque ces personnes sont montées dans des bus affrétés par des clubs, donc ils ont été identifiés, et clairement, ils n'avaient pas le bon comportement. Vous avez parlé de pseudo-supporters, c'est exactement ça.
Mais ça se passe en dehors des stades, c'est pour ça que c'est peut-être compliqué de demander au club de rendre des comptes, mais il faut, c'est ce que vous dites, c'est votre avis, il faut aujourd'hui sanctionner même les clubs, peut-être, sportivement?
Oui, en tout cas, il faut exiger d'eux, encore une fois, je le dis, ça s'est pas passé dans la rue, hein. Les bus ont été affrétés par les clubs, c'était quelque chose très précis, on connaît les noms des personnes, etc. Donc, évidemment, c'est au club d'exiger, on doit exiger des clubs qu'ils fassent le nettoyage.
Aujourd'hui, on est sur des sanctions individuelles dans ce genre de cas. On parle beaucoup d'interdiction de stade. En mars, sur RMC, le patron de la division de lutte contre le hooliganisme expliquait qu'en France, il y avait 328 personnes interdites de stade. C'est trois fois moins qu'en Belgique. Il faut changer de stratégie. Aujourd'hui, l'individualisation des sanctions, ça ne fonctionne pas.
Bah, vous l'avez dit à l'instant, ce chiffre plus 300, c'est très faible. Alors moi, je suis pas forcément pour une interdiction à vie, mais on doit en effet taper du poing sur la table et empêcher ces fauteurs de troubles de récidiver, tout simplement.
Mais on interdire les déplacements de supporters, par exemple, ça, c'est une solution qui est sur la table ou pas?
Oui, après moi, encore une fois, je suis pas pour une interdiction.
Ça gâche un peu la fête.
On est en train d'enlever l'âme du football, quoi. Voilà, l'âme du football. Après, faut savoir ce qu'on veut, évidemment. En tant que citoyen, moi, en tant que père de famille, j'ai envie d'aller pouvoir aller au stade avec mes enfants en toute tranquillité. En tant que fan de football, bon, c'est un peu dommage. Bah, on sait que lorsque le nettoyage a été fait de manière un peu trop radicale, les stades se sont transformés en théâtre ou en opéra. Et, bon, c'est pas la même chose, quoi.
J'ai l'impression à vous entendre, Abdelkrim Ranine, que au-delà d'un problème de supporters, le problème qu'on a en France, c'est un problème de gestion des supporters. Finalement, on ne sait pas organiser des événements où il y a des supporters qui vont se déplacer avec des gens potentiellement dangereux, en tout cas des gens qui ont potentiellement envie d'en découdre. On ne sait pas faire en France, alors que dans d'autres pays, on y arrive parfaitement. J'ai eu la chance, je vais prendre un exemple, j'ai eu la chance, moi, il y a quelques semaines, d'aller en Allemagne, où devant les stades, les supporters des deux équipes se baladent tranquillement, tous les deux devant les stades. Ça, en France, on a l'impression que c'est impossible. Pourquoi?
Je pense qu'on ferme les yeux en France, on se dit qu'on n'a pas de problème d'hooliganisme. Alors c'est clair que c'est pas l'Angleterre des années 80 ou 90, mais clairement on a des incidents à répétition qui reviennent régulièrement. On a clairement un problème d'hooliganisme, même s'il est minime par rapport à certains pays, et on doit y remédier en effet, bien sûr.
Là aujourd'hui, il faut s'attendre donc il y a une dizaine de personnes interpellées. Faut s'attendre uniquement à des sanctions individuelles pour ces.
Pour l'instant, on est sur du pénal, et c'est ça qui est dommage. On attend de la part du président de la FFF, de la LFP aussi, Monsieur Labrune, puisque il y a eu plusieurs incidents en championnat de France, du ministère de l'Intérieur. manière, évidemment, tous les clubs de Ligue 1 de prendre les mesures nécessaires, de taper du poing sur la table. Ça peut passer par des mesures, des sanctions, on va dire, exemplaires, mais il le faut, bien sûr.
Et parce que c'est vrai que là, depuis ces incidents-là, tout le monde se renvoie la balle. Il y a personne qui assume la responsabilité de ce qui s'est passé, qui explique ce qui s'est passé. C'est la faute de l'un de l'autre. Ça aussi, c'est un problème aujourd'hui.
À chaque fois qu'on a des incidents, même graves en France, tout le monde se renvoie la balle. On se souvient de la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis. Le ministère de l'Intérieur avait même incriminé les Anglais. Ça avait même été tourné au ridicule parfois. Là, cette fois-ci, encore une fois, je répète, il n'y a pas d'Anglais, c'est entre Français, c'est entre clubs français. Donc, il va falloir des responsables.
Merci beaucoup, Abdelkrim Branine, journaliste, co-auteur du livre KO Football Club aux éditions Hugo Sport. Merci beaucoup d'avoir été dans
Merci
ce studio ce matin pour ces éclairages. RMC, 6h19.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, c'est Manu Conso avec Manu Le Chypre. Il va nous parler du nouveau label Origine Info. Et puis on vous attend, vous également, au 32-16. Ce matin, on débat tous ensemble de ce durcissement prévu sur l'assurance chômage. C'est pour le mois de décembre, le gouvernement met la pression aux chômeurs. Il va falloir travailler plus longtemps sur une période plus courte pour ouvrir les droits au chômage. La durée d'indemnisation maximale va également être réduite. Qu'est-ce que vous en pensez? Venez nous le dire ce matin au 32-16. Est-ce que le gouvernement a raison de mettre la pression sur les chômeurs? Est-ce que c'est justifié? Ou est-ce que vous trouvez que cette réforme n'a aucun sens et que c'est juste un moyen de faire des économies? On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC rubrique Direct Studio.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux.
Charles Matin, Martin Bourdin.
RMC 6h21, l'heure de Manu Le Chypre.
RMC Manu Conso.
Manu Le Chypre qui nous parle ce matin d'un nouveau logo qui va bientôt apparaître pour mieux informer les consommateurs, Manu.
Oui, d'ici décembre, le logo Origine Info fera son apparition sur l'emballage de certains produits alimentaires transformés. Alors ce nouvel étiquetage, ça n'est pas une obligation légale, c'est une charte que les entreprises volontaires s'engagent à respecter. Elles sont à peu près 80 aujourd'hui. L'objectif, c'est de clarifier les informations sur l'origine des principales matières premières qui composent ces plats transformés. Par exemple, sur des spaghettis bolognaises, vous aurez marqué blé France, tomate Italie, bœuf Allemagne. Il n'y aura pas de mention UE. Vous savez, c'est souvent un petit peu le cache-tête.
La zone grise.
La zone grise, etc. Alors, attention, sauf si le nombre de pays d'origine est supérieur ou égal à 4. Bon, bref. Mais en principe, on y verra plus clair. C'est à peu près 10 000 références d'ici à la fin de l'année qui devraient afficher ce logo.
Ça, c'est la promesse, mais est-ce que c'est vraiment un progrès pour les consommateurs?
Alors, l'information sur les origines des produits, c'est vrai, elle sera un peu plus précise, un peu plus juste et permettra de lutter contre l'emploi souvent abusif du drapeau français sur les étiquettes, alors qu'aucun ingrédient produit ne venait de France. Reste d'abord qu'on est sur la base du volontariat, que ce type de logo n'est utile que s'il est possible de comparer les produits entre eux, et là ce sera un petit peu compliqué. C'est inquiétant que cet étiquetage ne soit que français, parce qu'on sait très bien que c'est peut-être plus de contraintes imposées aux entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes. Et puis surtout, il faut rappeler qu'on a déjà quand même 80 labels et logos différents aujourd'hui. En plus, tous alors ne portent pas sur les mêmes critères. Il y en a pour qui la priorité c'est l'origine, d'autres c'est les qualités nutritionnelles, d'autres c'est le fait que ce soit bio ou pas, et que ça va devenir vraiment, vraiment compliqué pour le consommateur de se faire une appréciation sur la qualité des produits qu'il achète.
Va falloir mettre une option au bac lecture d'étiquettes de produits peut-être bientôt, mais en tout cas ça peut quand même nous aider. Merci beaucoup Manu, on retrouve évidemment toutes tes chroniques en podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Bonjour Hugo.
Bonjour.
Et félicitations Hugo, depuis la Gironde, vous avez été tiré au sort après avoir joué avec nous ce matin. Ça c'était la première étape Hugo, désormais il faut gagner, il faut répondre à la question que vous a posée, que va vous poser Géraldine.
Quel ancien numéro 1 mondial fait son entrée aujourd'hui à Roland-Garros?
Raphaël Nadal.
Et bravo Hugo, c'est gagné.
Vous avez gagné votre radio réveil de la marque Muse pour vous réveiller avec RMC tous les matins.
Félicitations Hugo, j'imagine que vous allez suivre la rencontre, vous allez pouvoir regarder ça.
Oui, c'est un match de malade, il faut le regarder quoi.
Nadal, même avec un Nadal diminué, ça peut être un match sympa.
Ça va être un match chouette, mais il est jamais diminué. Donc,
à Roland Garros, en tout cas, il est moins diminué en général. Raphaël Nadal.
Ah, vous pensez qu'il peut gagner quand même cet après-midi?
Oui, j'en suis sûr. Sur un match, il est capable de tout.
Il est capable de tout. Ok, bah, ouais. le pari est placé. On verra demain. On verra cet après-midi si vous avez raison ou non.
Et Charles. Le bon réflexe, Hugo, c'est la radio digitale.
Exactement. 100%
terre battue sur RMC, sur l'appli RMC. Vous ne manquez rien. De Roland Garros. Salut Martin.
Salut
Manu. Salut Géraldine. Est-ce que vous connaissez Sniffy?
C'est une catastrophe.
Ce truc. Ah, vous avez vu passer là cette fausse cocaïne. Cette petite fiole de poudre blanche vendue légalement dans les bureaux de tabac avec une petite paille pour sniffer. C'est vraiment de la fausse cocaïne. On nous promet un boost d'énergie avec évidemment des goûts exotiques pour attirer les jeunes. Le gouvernement promet d'agir, mais en attendant, les médecins s'alarment. L'addictologue Amine Benyamina sera dans le parti pris tout à l'heure à 8h10. Autre rendez-vous très important aujourd'hui, c'est le débat ce soir sur RMC et BFM TV. Débat événement entre les 8 principales têtes de liste aux européennes. Débat animé par Apolline de Malherbe et Maxime Switek. Ce sera à partir de 20h30 sur RMC. Et puis ce matin, toute l'actu, toute l'info avec vous au 32-16. On en parlait depuis 5h avec Martin. Les règles de l'assurance chômage qui vont encore se durcir. Il faudra travailler plus longtemps pour avoir droit aux indemnités. L'indemnisation durera, elle, moins longtemps. Est-ce que c'est nécessaire, cette réforme? Manu Le Chypre va tout décrypter tout à l'heure à 7h20, mais on vous pose dès maintenant la question au 32-16. Appelez-moi, vous êtes patron, est-ce que vous galérez à recruter? Est-ce que vous êtes actuellement en recherche d'emploi? Vous avez connu le chômage, le gouvernement a-t-il raison de mettre la pression aux chômeurs? Est-ce que c'est la bonne méthode pour ramener les chômeurs vers l'emploi? C'est à vous de nous dire, ça se passe au 32-16. Et puis au programme également ce matin, le texte sur la fin de vie. Ça arrive aujourd'hui à l'Assemblée à 7h10. Je reçois Claire Fourcade, la présidente de la Société française de soins palliatifs. Elle mène la fronde contre ce texte. Elle est le témoin du jour sur RMC. Bref, le programme est riche. On commence dans un instant à Apolline Matin avec la météo et le journal. Ça se passe sur RMC et RMC Story. Vous nous regardez sur le canal 23 de la TNT.